Alors c'est un double message en quelque sorte, puisque cette pensée que je viens de vous apporter est vraiment un message pour cette année. Mais il y a ce message que j'avais entamé il y a 15 jours et pour lequel j'avais dit que je le poursuivrai le premier de l'an, concernant la solitude du serviteur de Dieu. J'avais évoqué d'abord la préparation du salut, la manifestation du salut, et dans la préparation du salut avec Moïse, avec les prophètes, eh bien, il y avait beaucoup de temps de solitude pour ceux que Dieu avait choisis. Ils étaient seuls, Moïse seul face à Pharaon, Élie seul face aux faux prophètes. Et puis ensuite, il y a eu la réalisation du salut avec le Seigneur Jésus qui était réellement seul, et même lorsqu'il a été accompagné par ses disciples, jusqu'à un certain point, lorsqu'il a fallu qu'il donne sa vie, eh bien, il était absolument seul. Tous l'ont abandonné et il a assumé seul d'accomplir le salut pour les humains. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu la prédication de l'Évangile, la prédication du salut. Et là, on retrouve la même solitude du serviteur de Dieu, mais il faut d'abord revenir un peu en arrière et signaler que le Seigneur a promis d'être avec tous ses enfants, toute son Église, et que foncièrement, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20, les 11 disciples allèrent en Galilée, puisqu'à ce moment-là, ils étaient réduits à 11. Ensuite, un 12e a été à nouveau ajouté. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur promet d'être avec ses disciples chargés d'annoncer le royaume et d'enseigner les croyants. Ils ont l'assurance d'être accompagnés par le Seigneur. Et ils le sont effectivement. L'évangile de Marc se conclut de cette façon, versets 19 et 20, chapitre 16. Le Seigneur, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils ne sont pas seuls, effectivement. La puissance du Seigneur se déploie. C'est le Seigneur qui travaille avec eux et qui confirme sa parole. L'Église connaît la puissance du Seigneur par la présence du Seigneur. Il n'y a pas de puissance pour l'Église s'il n'y a pas le Seigneur lui-même qui est à l'œuvre. La présence du Seigneur est déterminante. Si le Seigneur ne s'était pas rendu présent, l'Église n'aurait jamais eu aucune puissance. Les deux vont ensemble et la présence précède la puissance. Parce que la puissance ne vient pas de l'homme, c'est celle de Dieu. Jésus avait promis, Évangile selon Jean chapitre 14, verset 15 à 18, avant de quitter ses disciples, il savait qu'ils auraient un moment de profonde solitude et qu'ils se sentiraient orphelins lorsque il les quitterait. Alors il les a rassurés. 14, verset 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Promesse du Seigneur par le don du Saint-Esprit. L'Église, c'est donc la joie, la force, la communion pour annoncer l'Évangile avec le Saint-Esprit qui est là à l'œuvre au milieu des croyants et en chaque croyant. Cette Église, cependant, garde un caractère humain, synonyme de faiblesse, d'inconstance, de résistances diverses, d'incompréhension, d'erreurs, d'autres égarements, ce qui fait l'homme naturel. Le Seigneur sanctifie ses enfants, mais il ne change pas leur nature. Par conséquent, les croyants ont toujours eu besoin d'être instruits, corrigés, exhortés pour que la vérité spirituelle qu'ils ont reçue dans leur cœur s'adapte à eux, les transforme, les rende capables de vivre selon les principes du Seigneur. Et il a donc fallu pour cela des serviteurs, des hommes mis à part pour assurer l'édification des fidèles. Tout était à construire, tout était à bien définir. Le message de la bonne nouvelle était prêché, mais il fallait que les choses soient reprises dans tous les aspects de la vie. Et pour cela, eh bien, il y a eu les apôtres. Et c'est ainsi que Paul se présente, Épître aux Romains, chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Mis à part par le Seigneur. Et il rappelle aux Galates le commencement de sa carrière, chapitre 1, versets 11 à 24. Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang et ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Trois jours plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, c'est-à-dire Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et dans ce que j'écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. » L'apôtre rappelle que rien n'est venu de lui ni des hommes. Tout lui est venu du Seigneur. Par conséquent, il ne se tourne pas vers les hommes, même les plus éminents croyants au départ. Il dépend de l'enseignement de son Seigneur. Et ainsi, il pourra restituer cet enseignement dans toute sa force, parce qu'il sait, il savait de qui il avait reçu cet enseignement. Ce n'était pas un enseignement d'homme, c'était l'enseignement du Seigneur. Remarquons qu'à l'origine de cette attitude, il y a la leçon donnée par l'Église du Seigneur. Parce que l'Église, dès le commencement, avant le ministère de l'apôtre, l'Église obéissait déjà à son Seigneur. Et elle a résisté à cet homme lorsqu'il était encore dans l'ignorance. Ceux que l'apôtre arrêtait, qu'il faisait mettre en prison, ils obéissaient à Christ et non pas aux hommes. Et confrontés à cette résistance des croyants qui voulaient être fidèles à ce qu'ils avaient reçu du Seigneur, eh bien cet homme a été dans sa conscience certainement bousculé jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à lui et il a compris que le message qu'il recevait et que la vie qui s'engageait avec Christ, c'était une vie d'absolu. Il n'y avait plus rien de relatif. C'était absolument la vie du Seigneur qu'il fallait proclamer et la vérité du Seigneur. Donc les premiers croyants ont montré l'exemple d'une foi inébranlable dans la révélation du Seigneur et d'une inflexibilité de l'âme lorsqu'elle a été gagnée par la vérité de Christ. Alors on peut dire que l'engagement de l'Église a précédé l'engagement de l'apôtre qui ensuite lui-même a été chargé d'enseigner les églises. Alors, nous pouvons faire une comparaison avec nos ministères et nos engagements, mais une comparaison pour dire que justement, il n'y a pas de comparaison possible. On ne peut pas se comparer, nul, personne ne peut se comparer à Paul concernant la révélation de Dieu. Pas plus que sous l'ancienne alliance, un Israélite aurait pu se comparer à Moïse. Ce sont des hommes qui ont été mis à part, choisis par le Seigneur. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur dit à Ananias chargé d'aller prier pour Paul. Ne crains pas, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Aujourd'hui encore, Dieu choisit, met à part pour son service. Mais ceux qu'il choisit puisent dans les ressources transmises par les apôtres au commencement. Il n'y a pas de nouvelle révélation. Et tous les croyants, maintenant, ensemble, et tous les serviteurs, puisent dans l'héritage des apôtres et aussi l'héritage de l'Église qui a été fidèle au cours des siècles pour transmettre la révélation initiale. Donc, nos ministères, nos vocations n'ont pas la même dimension que celui ou celle des apôtres et de Paul en particulier. Mais ce qui nous importe, c'est l'attitude des premiers croyants, des premiers disciples et des premiers évangélistes. C'est une question d'attitude, de position morale. Aux Galates, chapitre 1, verset 10, avant même d'avoir remonté à l'origine de son appel, l'apôtre dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et ça, cette parole-là, les serviteurs actuels, les disciples actuels peuvent la reprendre à leur compte. Est-ce la faveur des hommes que nous désirons ou celle de Dieu ? Est-ce que nous cherchons à plaire aux hommes ? Si nous cherchons à plaire aux hommes, ben nous allons servir les hommes. Or, nous sommes appelés à servir Dieu. Et Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. L'attitude fondamentale. Alors, sur le plan des affaires de la vie, l'apôtre avait un scrupule. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 21, nous voyons que, tout en ayant sa conscience devant Dieu, l'apôtre tenait compte de la conscience des hommes. 8, 21. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Ici, il s'agit d'une collecte d'argent et de la façon de la rendre utile, la transmettre donc à ceux à qui elle est destinée. Collecte de biens pour secourir des membres de l'Église en difficulté. Et dans ce domaine, l'apôtre veut que les choses soient en règle également devant les hommes, bien sûr. Il a du scrupule par rapport à la conscience des hommes. Tout doit être fait selon la justice, la vérité, et des comptes doivent être rendus. C'est ce qui fait que dans les assemblées, il y a une comptabilité qui est tenue et que l'on peut consulter. Voilà, les choses sont faites aussi devant les hommes concernant les réalités de la vie. Mais sur le plan de l'enseignement fondamental de la vérité, alors il y a une détermination indéfectible dans le témoignage, ce que l'apôtre signifie aux Corinthiens dès le commencement de sa première épître, au chapitre 4, verset 1. À 4. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, Il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Peu m'importe, dit l'apôtre, d'être jugé par vous ou par un tribunal humain concernant les révélations et la manière de transmettre ces révélations à l'Église. Le juge, c'est le Seigneur. La conscience du serviteur de Dieu se trouve placée devant son Seigneur. Alors, bien sûr, cette bonne attitude devant Dieu conduit à des moments de solitude lorsque nous ne sommes pas compris par les hommes. Et au plus ça va, et au plus on arrive à la fin du parcours, eh bien, au plus se manifeste parfois, probablement d'ailleurs, est-ce toujours, je sais, mais cette nécessité de tenir bon dans ce que le Seigneur nous a révélé et nous a confié. Même si nous sommes amenés à la solitude, ce que l'apôtre dit à Timothée, dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, versets 6 à 18, nous avons là non plus le commencement, mais la fin du parcours de l'apôtre. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le-moi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Au moment d'entrer dans le royaume céleste, devant le Seigneur, chacun paraîtra pour rendre compte de sa vie et de son service. Et même si tout autour de nous, il y a des défections, des abandons, des manques de soutien, celui qui a reçu la pleine conviction du Seigneur va jusqu'au bout. Parce que ce qui est devant lui, ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas le monde, mais c'est le Seigneur qu'il sert. C'est le Seigneur qu'il va rencontrer. Et donc il persévère au risque même de la solitude la plus complète. On voit que, pas loin, il y a des fidèles serviteurs, des fidèles disciples qui continuent à soutenir l'apôtre. Mais concrètement, dans sa défense de la foi devant César, hein, puisque c'est de cela qu'il s'agit, dans le tribunal de César, personne n'est là pour l'assister. Il est seul à devoir assurer la défense de l'évangile devant l'Empire. Donc, devant le monde entier, la confrontation, là aussi, de même que Moïse était seul devant Pharaon, l'apôtre est seul devant César. Lorsque le monde se manifeste dans toute sa puissance, dans toute sa domination, il reste en face de ce monde l'Église, bien sûr. Elle a aussi cette position, donc à tenir ferme face à la puissance du monde. Mais dans l'Église en particulier, quelques-uns devront se tenir seuls devant des autorités à certains moments, devront faire face, devront assumer quoi ? Assumer la défense de l'Évangile. Rien d'autre que cela, la défense de la foi en la grâce et la vérité du Seigneur, lorsque autour il y aura plein d'abandon et de reniement. Ceux qui compteront, on peut dire, pour le Seigneur, ce sont ceux qui accepteront, même sans être soutenus, même en étant abandonnés, délaissés, de tenir ferme dans le témoignage. Alors c'est valable pour chaque disciple, mais pour des serviteurs en particulier, qui ne seront pas là à vouloir faire en quelque sorte les fiers à bras, comme on dit, et affronter par leur superbe personnel les grands de ce monde. Il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit d'être convaincu de la vocation qu'on a reçue du Seigneur et d'avertir selon le royaume qui vient, même lorsque tout semblera totalement à l'inverse de la victoire de ce royaume. Alors que le Seigneur nous rende capables, déjà nous, dans nos vies personnelles, à certains moments, de ne compter que sur lui et non pas sur des appuis humains autour de nous. Amen. Sois béni, Seigneur, pour ce moment que nous passons devant toi. Que ta parole nous fortifie, que l'exemple de tes serviteurs qui ont été fidèles dans leur vocation nous éclaire et nous soutienne. Ces serviteurs de la parole, mais aussi ceux que nous avons pu voir à l'œuvre au cours des siècles et des deux millénaires maintenant. Seigneur, que leur témoignage nous inspire et nous garde fidèles. Amen.